Et en studio, Julien Rougerie, qui est chargé du programme « Pour que vieillir soit gai » de la Fondation Émergence. Bonjour, Julien.
Bonjour.
D'abord et avant tout, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques phrases de la vocation de la Fondation Émergence?
Oui, bien sûr. La Fondation Émergence, c'est un organisme de défense des droits des personnes LGBT, donc lesbiennes, gays, bisexuelles et trans. Mm-hmm. On a plusieurs programmes de sensibilisation. Le plus connu, c'est celui du 17 mai, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, qui a été créée ici à Montréal par la Fondation Émergence en 2003.
Oui. Et là, vous avez mis sur pied « Pour que vieillir soit gai ». Alors, ce programme-là vise essentiellement la personne, les aînés, parce que la population est vieillissante. 10 % de la population est homosexuelle, d'après ce que j'ai pu lire aussi sur votre site Internet, le site de la Fondation. Et est-ce que c'est plus difficile de s'afficher quand on est une personne aînée?
Oui, c'est plus difficile. En fait, il faut prendre un petit peu en considération leur parcours de vie. Les aînés, ils ont vécu à une époque où... c'était par exemple la prison hein, jusqu'en 1969. On pouvait perdre son emploi ou son logement jusqu'en 77,
ouais.
Jusqu'en 96 au niveau fédéral. Les couples n'avaient aucune reconnaissance légale jusque dans les années 2000. Donc c'est une génération qui a dû se cacher pour survivre. Donc forcément, certes, il y a une ouverture récente de la société.
Mais ils vivent avec ce lourd passé. Là.
Exactement, comme dit une de mes bénévoles, on vieillit comme on a vécu. Donc quand on a vécu en se cachant, c'est pas parce que la société, elle évolue rapidement que c'est des personnes qui vont garder leur mécanisme de défense, qui est souvent de ne pas divulguer leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.
Alors, j'imagine que c'est compliqué pour une personne gay de se retrouver en résidence pour personnes âgées, de ne pas pouvoir... révéler son orientation sexuelle.
C'est ça, en fait, ce qu'on observe.
Ils ont déjà de la difficulté à le faire, mais pour se retrouver dans une résidence, c'est ça.
Donc, vis-à-vis des autres, surtout dans les milieux de vie comme les résidences où l'intimité est très, très réduite, ce qu'on observe, parce que nous, on offre des formations, par exemple, pour les résidences pour aînés, notamment auprès des intervenants, parce que c'est eux qui peuvent débloquer un petit peu ce tabou-là.
Oui.
Donc c'est sûr, pour les personnes LGBT qui sont dans des résidences, souvent leur réflexe, c'est soit de rester dans le placard parce qu'elles y ont été toute leur vie, ou soit elles sont sorties dans le placard plus tard sur leur vie, mais quand elles retournent en résidence, vu qu'on n'en parle pas, vu que c'est toujours un tabou, ils pensent que c'est plus prudent de retourner dans le placard, et puis ça favorise l'isolement social, et puis tout ce qui peut en découler. En termes de santé mentale, de maltraitance, etc.
Est-ce qu'ils ont surtout peur des préjugés que pourraient avoir les autres résidents ou justement les personnes qui travaillent dans les résidences pour personnes âgées, le personnel qui donne des soins?
La crainte, elle est vis-à-vis des deux camps.
Ouais.
Bien sûr, elle est évidente par rapport aux gens qui ont eu le même parcours générationnel qu'eux. Mais elle est aussi il y a une crainte aussi vis-à-vis des intervenants, parce que les intervenants, on dépend d'eux pour son bien-être, hein, quand on est une personne aînée dépendante. Donc il y a une crainte que si l'intervenant le savait, est-ce que ça pourrait avoir un impact négatif sur la qualité des soins dont il bénéficie?
J'imagine que donc, ça peut arriver, ça.
C'est ça.
Ouais.
Et puis donc cette crainte, en tout cas, elle fait en sorte qu'ils évitent de le dire aux intervenants du milieu aîné, de la santé, des services sociaux. Ça s'est très bien renseigné dans les études.
Ah oui, on ne peut pas vivre comme ça éternellement.
Ben non.
Ce programme-là qui s'appelle « Pour que vieillir soit gai », j'imagine est vraiment accueilli avec joie par les personnes aînées qui sont dans des situations problématiques où ils se sentent complètement prises au piège.
En fait, nous, c'est vrai que nous, on fait de la sensibilisation dans les milieux. Donc, on sent beaucoup nos actions sur les intervenants, sur les résidents aussi. Mais on est plus de la sensibilisation du milieu. On n'offre pas nécessairement de services de soutien directement aux aînés LGBT.
Il y a
très peu de ressources.
Il y a très peu de ressources, oui.
La plus évidente, c'est une association de retraités gays à Montréal. Mais il y a beaucoup moins d'offres en région, il y a beaucoup moins d'offres pour les femmes, par exemple.
Mm-hmm.
Donc il y a très, très peu de ressources de socialisation, par exemple, pour les personnes LGBT aînées.
Bon, alors, avis aux intéressés, parce qu'il y a un problème là. Les personnes aînées qui sont prises dans une espèce de carcan, qui ont de la difficulté à s'affirmer et qui ont encore plus de difficultés quand ils se retrouvent dans une résidence pour personnes âgées, ils ne peuvent pas vraiment vivre leur histoire. Est-ce qu'ils, avec leurs partenaires, ils ne peuvent pas vraiment partager leur chambre avec leurs partenaires.
C'est ça, un autre enjeu. En fait, dans les résidences, les personnes LGBT, ouvertement LGBT, sont invisibles, voire inexistantes. On pose toujours la question. On est toujours très, très, très loin du 10%. On est plus proche du du 0%.
Ouais.
C'est encore plus fort avec les couples, où là, c'est extrêmement rare d'avoir des résidences où il y a un couple de même sexe.
Mm-hmm. C'est rare parce que...
Ça les rend plus visibles. Donc ouais. Souvent, il y a des couples qui vont faire le choix d'être amis dans des chambres séparées, par exemple. Comme ça, il n'y a pas le risque d'un mauvais accueil. Puis c'est aussi une génération qui a tellement été dans le placard que de toute façon, c'est une génération qui est moins en couple. Ça a été impossible de former un couple leur vie.
Le pattern est vraiment installé.
C'est des gens qui sont plus souvent célibataires et qui vivent plus souvent seuls que la moyenne à la base.
Mm-hmm. Comme il n'y a pas beaucoup de ressources, quelles sont les solutions que vous proposez?
Notre solution, c'est de donner tous les outils nécessaires au milieu, que ce soit nos formations, des expositions itinérantes, de l'affichage, des vidéos, des recensements d'études, etc. On donne tous les outils au milieu pour les aider à briser un petit peu ce tabou et puis pouvoir en parler progressivement et que ça devienne plus normal mm-hmm. et que les personnes se sentent à l'aise d'en parler, pas forcément tout le temps, mais de pouvoir en parler ne serait-ce qu'à un intervenant une fois de temps en temps, ça peut vraiment être délivrant pour les personnes qui n'en parlent jamais à personne.
Oui. En tout cas, moi, j'en reviens pas de ce que vous me dites, mais les proches aidants LGBT ont-ils plus de difficultés à être reconnus et à avoir accès aux ressources?
Alors, c'est un autre enjeu qui est intéressant.
Ouais. Il y a beaucoup d'enjeux. Hein?
D'ailleurs, on va créer un nouveau programme financé par l'appui aux proches aidants. C'est un enjeu qui recoupe celui des aînés. En fait, l'enjeu principal des proches aidants, c'est qu'ils ne sont... les personnes LGBT ne s'identifient pas au concept de proche aidant parce que c'est un concept qui est culturellement très ancré dans la famille biologique, entre guillemets. On pense tout de suite
papa,
aux
maman.
Enfants qui mm-hmm. aident les parents, etc. Donc chez les aînés LGBT, leur proche aidant, c'est beaucoup, beaucoup plus souvent un ami, un conjoint ou un ex-conjoint. Donc on n'est pas dans le schéma traditionnel de la famille.
Oui, oui.
Donc c'est des personnes qui ne s'identifient pas en tant que proche aidant, donc qui n'accèdent pas aux ressources. Et puis parce que la personne qu'ils aident est très réticente parfois à parler de son identité sexuelle, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, pardon, c'est des personnes qui vont éviter les services de la santé, les services publics. Donc c'est un poids supplémentaire pour le proche aidant.
Alors il y a beaucoup de travail de sensibilisation, oui. d'information, de conscientisation. Est-ce que vous voyez de l'espoir?
Oui, c'est un programme qui a 10 ans. Donc, on voit quand même la progression sur les 10 dernières années.
Oui, il y en a de la progression.
On avait beaucoup de mal à offrir nos formations puisque les intervenants nous disaient « Ah ben, on n'a pas de LGBT dans notre clientèle, ça n'existe pas. »
Il y en avait peut-être, mais les LGBT ne se manifestaient pas. Ouais.
Donc maintenant, le message est plus facile à faire passer. Les gens trouvent ça évident qu'il y a des LGBT dans leur clientèle.
Bon, puis alors déjà, c'est un bon pas.
Ils consentent au fait qu'effectivement, on ne les voit pas. Donc, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour que certains puissent l'exprimer. Mm-hmm. Puis c'est de là c'est à partir de ce constat-là qu'on commence nos interventions.
Et dans les résidences pour personnes âgées, est-ce qu'il y a des psychologues qui sont là pour rencontrer les personnes qui seraient intéressées à se livrer, à se faire aider?
Alors nous, on rencontre des psychologues indépendamment, pas forcément ceux des résidences. Mm-hmm. Le personnel qu'on forme dans les résidences, je ne me souviens pas d'avoir eu des psychologues dedans, qui ne sont pas attachés nécessairement à la résidence, mm-hmm. mais on forme aussi des psychologues, des professionnels de la santé mentale, etc. En fait, on sensibilise tous ceux qui offrent des services aux aînés. On a déjà formé, par exemple, des notaires. Quand on fait son testament, etc., ben,
ouais.
on a envie d'être à l'aise, de pouvoir parler de qui est la personne à qui on veut léguer mm-hmm. notre maison, par exemple. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de professions, en fait, qui sont concernées par cet enjeu-là, et les psychologues en font partie, oui.
Est-ce que vous les rencontrez, les personnes aînées, les personnes...
Oui, en fait, elles sont très impliquées dans notre programme. On a un groupe de travail d'aînés LGBT qui nous oriente un peu sur nos actions. Et puis, dans toutes les interventions qu'on fait, je suis toujours accompagné d'une personne aînée LGBT. Moi, je présente un petit peu l'état historique et statistique de la situation, mais il y a toujours une partie de témoignage. Donc, il y a une personne aînée LGBT qui m'accompagne, qui, elle, va parler de son parcours de vie à elle. Vu qu'on parle du problème de l'invisibilité des aînés LGBT, c'est important de les rendre visibles tout le temps. Donc, je suis toujours accompagné par une personne aînée LGBT.
Dans ce que ces personnes-là peuvent dire dans leur témoignage, qu'est-ce qui ressort le plus souvent?
Tous les parcours sont très, très différents. Je ne voudrais pas généraliser, mais souvent, les personnes qui nos bénévoles sont des personnes qui sont sorties du placard, sinon elles ne témoigneraient pas.
Ça, c'est sûr.
C'est très souvent des personnes qui sont sorties du placard très, très tard dans leur vie, passé la cinquantaine, etc.
Même qu'ils ont eu des familles,
des
enfants.
Des personnes qui se sont engagées dans des mariages hétérosexuels et ont eu des enfants, parce qu'à leur époque, il n'y avait aucune alternative. On se mariait avec un partenaire du sexe opposé et on avait des enfants.
Ouais.
Donc, c'est souvent ce parcours-là, après, qui est décliné et qui est vécu différemment en fonction des... c'est différent chez les lesbiennes qui, elles, en plus, avaient l'handicap social, j'ai envie de dire, d'être une femme. Les personnes trans aussi, c'est des réalités qui sont très différentes.
Ouais, ouais.
Donc, bien sûr, les parcours de vie sont différents chaque fois, mais c'est souvent une sortie du placard très tardive. Et plus on sort tard du placard, plus c'est difficile de s'affirmer.
Pour soi,
quand on a été perçu
autres.
Toute sa vie comme une personne hétérosexuelle ou cisgenre, là, c'est difficile.
Mais il n'y a jamais trop tard pour sortir du placard.
Bien sûr que non, bien sûr que non.
Un grand merci, Julien Rougerie,
merci
chargé du programme Pour que vieillir soit gay de la Fondation Émergence. Et pour avoir plus de détails, on peut aller sur le site de la Fondation.
Fondationémergence.org.
Merci, bonne journée.
Merci à vous.